Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Avec ou sans accord, les États-Unis vont se retirer de la guerre au Moyen-Orient. Donald Trump continue de souffler le chaud et le froid et renvoie la gestion du détroit d'Ormuz aux pays qui ont besoin de pétrole. Ils n'ont qu'à se débrouiller avec la France dans le viseur. La flambée des prix du carburant rampe de lancement du plan d'électrification de l'économie voulu par Sébastien Lecornu. Il convoque ses ministres ce matin à Matignon. Et l'Italie, encore spectatrice de la Coupe du Monde après 2018 et 2022. Les Italiens ne seront toujours pas du voyage. Battu au tir au but en finale de barrage par la Bosnie.
Donald Trump va parler aux Américains la nuit prochaine.
Une adresse à la nation du président américain au sujet de la guerre au Moyen-Orient. Terminée dans quelques semaines, dit Donald Trump, qui annonce que les États-Unis vont quitter le conflit, qu'un accord soit trouvé ou non. C'est ce qu'il dit dans une dernière prise de parole hier soir.
Ce que je dois faire, c'est quitter l'Iran et je vais le faire très bientôt, je dirais, peut-être dans deux ou trois semaines. Nous les avons renvoyés à l'âge de pierre pour très longtemps et ils ne sont plus en mesure de concevoir une arme nucléaire. Alors nous allons partir, avec ou sans accord. Si la France ou d'autres pays veulent à nouveau du pétrole ou du gaz, eh bien ils n'ont qu'à passer par le détroit d'Ormuz. Ils pourront se débrouiller tout seuls. Je pense que ce sera très sûr, mais nous n'aurons rien à voir avec ça. Ce qui se passe au détroit d'Ormuz, ce ne sont pas nos affaires.
Et comme à chaque fois, les mots de Donald Trump ont un impact sur les marchés, rassurés ce matin, pas de quoi faire baisser les prix du carburant. Le sujet sera sur la table d'une réunion ce matin, 10h30 à Matignon. S'il n'est pas question d'aide supplémentaire ou de blocage des prix, Sébastien Lecornu a convié une trentaine de ministres, Romain Houg, une partie du gouvernement chargée d'arriver avec des solutions en vue du plan d'électrification de l'économie.
Oui, l'idée c'est d'être moins dépendant des énergies fossiles que l'on importe. Concrètement, il demande par exemple au ministre de l'économie, Roland Lescure, de mettre en place une offre de location de véhicules électriques à destination des professions qui utilisent beaucoup leur voiture au travail, comme les aides-soignants ou les infirmiers libéraux. Vincent Jeanbrun, le ministre du Logement, doit quant à lui plancher sur la sortie du gaz pour les logements neufs. Chaque ministre doit ainsi travailler sur des pistes à soumettre à Sébastien Lecornu d'ici la semaine prochaine. Ce grand plan d'électrification était prévu pour la fin du mois, mais le contexte économique presse le gouvernement à le présenter dans les tout prochains jours. Alors, comment le financer? Eh bien, le Premier ministre souhaite utiliser les surplus des recettes fiscales générées par la hausse des prix du carburant ou encore mobiliser la Caisse des dépôts et le monde bancaire pour aider, par exemple, les boulangers quand ils doivent électrifier leur four.
Et en attendant, plus d'une station sur 10 est en rupture de gazole ou de sans-plomb 95, des stations Total Energy victimes de leur succès en raison d'un prix plafonné jusqu'au 7 avril. La flambée des coûts de l'énergie qui fait une victime collatérale dans un contexte où il est difficile de trouver un repreneur. Le transporteur Ziegler est placé en liquidation sans poursuite d'activité, laissant 1500 salariés sur le carreau. Les transporteurs routiers qui sont toujours mobilisés ce matin, c'est notamment le cas du côté de Nice ou encore de Toulouse. Il est 7h04, vous écoutez RMC. Une dixième personne interpellée hier soir après le saccage de la mairie de Fresnes. Une partie de l'hôtel de ville et plusieurs commerces du centre-ville ont été dégradés par de jeunes individus dans la nuit de vendredi à samedi. 9 personnes avaient déjà été interpellées hier matin et on en sait plus, Constance Bostoen, sur le profil de ces gardés à vue.
Oui, selon une source proche du dossier, ce sont des adolescents âgés de 14 à 16 ans. Ils sont originaires de Fresnes et des alentours. Tous sont soupçonnés d'avoir, dans la nuit de vendredi à samedi, dégradé la mairie de la commune ainsi que des commerces voisins. Sur les images de vidéosurveillance, on peut voir une dizaine de personnes cagoulées s'approcher de la mairie et briser la porte d'entrée. Une fois à l'intérieur, ils dégradent le mobilier à coups de bâton et de projectiles. Le nouveau maire Christophe Carlier évoque un préjudice colossal pour le fonctionnement de la commune. De son côté, le ministre de l'Intérieur s'est félicité de l'avancée de cette enquête. Une enquête qui se poursuit. Plusieurs personnes sont toujours recherchées par les autorités.
Des perquisitions hier à la mairie de Paris. Le parquet national financier cherche à savoir si l'attribution de la cérémonie des commémorations des 10 ans des attentats du 13 novembre 2015 a été respectée. Un chiffre, 4,76%. C'est le taux de record de l'absentéisme au travail l'an dernier. Étude AXA France qui nous révèle que les moins de 35 ans et les cadres sont davantage concernés par ces arrêts maladie. On en reparle dans le journal de 7h30.
7h05 et on en vient à cette cagnotte lancée pour aider le père d'un SDF retrouvé mort à Bordeaux.
L'hôpital de la ville lui réclame 3 800 € pour avoir conservé pendant 4 mois le corps de son fils sans abri. Personne ne l'a prévenu. Il ne sait pas comment régler cette somme et dénonce les manquements des services de communication. Pierre Bourgès l'a rencontré pour RMC.
Quand Laurent Simon parle de son fils, il le fait sans détour. Oui, Ange était SDF et avait des problèmes d'addiction. Alors si le père n'avait pas de nouvelles pendant plusieurs mois, il ne s'inquiétait plus. Mais un matin, en juillet dernier, il reçoit un coup de fil.
J'ai un copain de Ange qui m'a dit qu'il était décédé.
Inquiet, l'homme tente de vérifier cette rumeur et appelle plusieurs mairies. L'une d'entre elles confirme que son fils est décédé depuis 4 mois et que son corps est conservé au CHU de Bordeaux. Alors pourquoi n'a-t-il pas été prévenu? Il n'a pas d'explication.
Ce qui passe pas, moi, c'est que mon fils, ils l'ont laissé 4 mois dans un frigo, quoi. Là, le dernier dictateur, on lui fait pas ça, quoi. Alors qu'il m'aurait prévenu, j'ai fait ce qu'il fallait pour s'occuper de lui, quoi.
Aujourd'hui, le CHU de Bordeaux lui demande de payer près de 4000 euros pour la conservation du corps.
Normalement, j'ai pas à payer cette facture parce que si les services de police avaient fait leur travail, en 15 jours, ils m'ont retrouvé, ils seraient pas restés 4 mois dans la morgue, quoi.
De son côté, l'hôpital rappelle que ce n'est pas à lui de rechercher les proches des victimes. Une cagnotte a été ouverte et cumule pour l'instant près de 250 euros.
La malédiction se poursuit en Italie.
Si vous êtes un Italien de 11 ans, vous n'avez jamais vu l'équipe nationale à la Coupe du Monde. Et il faudra encore patienter 4 ans, au moins privé de mondial. Pour la troisième fois de rang, l'Italie a été battue en finale de barrage hier soir par la Bosnie au tir au but. Le désespoir pour toute une nation. Reportage de notre envoyé spécial dans un bar de Milan, Clément Brossard.
Pester, jurer avec les mains, les Italiens comme Alessandro l'auront beaucoup fait hier soir.
Un peccato.
C'est un péché. Ils pensaient passer, mais la vérité, c'est qu'on a une équipe avec des joueurs faibles et bien trop jeunes. On a fini avec 4 joueurs de 20 ans. Ils étaient terrorisés. On a joué avec la peur, mais que voulez-vous qu'on fasse avec ça? Ce n'est pas possible.
Non è possibile.
À 58 ans, Riccardo s'inquiète lui pour la jeunesse italienne.
J'ai connu deux sacres en 82 et 2006. Quand je pense que les jeunes de 16 ans n'ont jamais vu jouer l'Italie au mondial, ça me rend fou. Ce n'est pas possible. C'est la pire période du football italien.
Comme en 2018 et 2022, Roberto ne verra pas sa squadra azzurra disputer un mondial difficile à digérer.
C'est un cauchemar, c'est la troisième fois de suite. Je veux bien pardonner, mais j'ai 23 ans et le dernier mondial que j'ai vu date de plus de 10 ans. Si on pardonne encore, ce sera la même chose la prochaine fois. Il faut tout changer jusqu'au président de la fédération, Gravina.
Dans l'espoir d'enfin retrouver la joie d'une Coupe du Monde disputée, mais il faudra, quoi qu'il arrive, encore attendre 4 ans.
La Bosnie qui décroche donc son billet avec la Suède, la Turquie et la République tchèque. Et on connaît ce matin le nom du dernier adversaire des Bleus, l'Irak, 48e et dernière nation à se qualifier cette nuit face à la Bolivie, 2-1. Le match vient de se terminer. La Norvège et le Sénégal seront les deux autres pays de ce groupe I.
C'était le journal de Thibaut Texer.